Ça vous est déjà arrivé, Aurore Pourny, d'avoir eu l'impression d'avoir vécu une scène?
Oui, ouais. Ça a un nom, mais je ne sais pas lequel. Ouais. Mais ça arrive tout le temps, évidemment.
C'est un peu ce que je suis en train de vivre là. Je peux pas tout vous raconter. Alors, on va mettre un jingle et je vais vous expliquer. À vous tous.
MDM. Tout un monde.
J'ai lu un livre une fois, ça m'a rien fait.
Cette même personne m'a dit que j'étais un illettré, qui veut dire homme de lettres. En italien.
Alors, la gueuse de Camus, la vilaine de Camus, la peste de Camus, la mégère de Camus.
Réponse D, la mégère.
Et donc, on disait quoi? Cuticule.
Ça veut dire quoi? C'est un livre sur le rapport entre les femmes et les animaux?
Ça veut dire exactement ce que ça veut dire. C'est un livre qui parle du rapport qui peut exister entre un animal d'une part et une femme d'autre part.
Vous avez vraiment une écriture. Pourquoi vivez-vous comme un clochard?
Mais je suis un clochard. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous voulez que je chante les souffrances de la grande bourgeoisie? Connerie.
Ça vous surprendra sans doute, mais elle souffre aussi.
Oh. Doucement, petite. Personne ne souffre autant que les pauvres.
Bonjour, Aurore Pourny.
Bonjour.
Alors, je me posais une question en arrivant ici. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre dans l'instant, d'avoir déjà vécu une scène?
Comme un rêve, de le revivre, mais oui. C'est un nom scientifique.
C'est un nom scientifique, hein?
Mais je suis pas très scientifique, donc...
Oui, ben c'est bien pour ça que je suis là. Oui, en vérité, ça y est, je sais pourquoi je l'ai rêvé. Non, parce que le bouquin s'appelle L'échec. Donc c'est une réalité. L'échec, comment échouer mieux?
Par Claro, oui, ça va être le sujet d'aujourd'hui.
C'est l'apologie de la loose, c'est quoi?
C'est l'apologie de la loose. Comment échouer mieux aux éditions Autrement, par Claro. Alors, déjà, alors Claro, c'est un auteur dont je parle souvent ici sur les ondes. C'est un auteur vraiment énigmatique pour moi parce que je comprends un livre sur deux de cet auteur. J'arrive à en lire un sur deux, à comprendre un sur deux. Et pourtant, j'essaye toujours.
Vous allez jusqu'au bout.
Oui, j'échoue à lire Claro, mais j'essaye à chaque fois.
Alors, est-ce que celui-là, vous avez réussi?
Et celui-là, j'ai réussi. Et c'est génial parce que l'un de mes leitmotivs dans la vie, c'est justement cette formule de Beckett qui est essaye, essaye encore, échoue, échoue encore. Échoue mieux.
Samuel Beckett, d'accord.
Il va faire référence dans son texte aussi à Beckett. Donc c'est un art de vivre chez moi. Échouer, échouer mieux.
Mais alors c'est quoi? C'est comment rater sa vie de la meilleure des façons?
Alors échouer mieux, on comprend...
C'est le panache, c'est quoi?
Entre les lignes qu'il s'agit d'apprendre, évidemment, quand on essaye et qu'on essaye encore, on finit d'apprendre par apprendre de ses erreurs.
C'est la fameuse phrase de Mandela.
C'est exactement ça, ouais.
Je perds jamais, j'apprends toujours en faisant quelque chose.
Oui, soit je réussis, soit j'apprends.
Vous allez soyez dire... médiocre.
Soyez médiocre.
Au mieux.
Donc, Claro, l'un de mes auteurs préférés, non, du coup. Alors, en revanche, Claro est également un traducteur et un éditeur de littérature américaine contemporaine. Il s'attache à traduire l'intraduisible aussi. Là, on va parler de l'échec dans ce livre, L'échec, comment échouer mieux, par le prisme de ce que Claro maîtrise, c'est-à-dire l'écriture et la traduction. On ne va pas parler de l'échec dans la vie de tous les jours. Oui. Il va nous parler de c'est quoi l'échec en écriture. Un bon auteur est un auteur qui échoue à écrire.
Apprenez-moi, parce que j'ai un peu marre de réussir tout ce que j'entreprends.
Mais non, mais aucun bon auteur n'arrive du premier coup. Ça n'est que des ratures et
Il n'y a pas de premier jet.
Non, un bon auteur réécrit tout le temps. Le point final pour l'auteur, c'est une tragédie.
Justement, je me posais la question. Les auteurs qui aiment raturer des trucs dans la marge. Et alors, depuis 20 ans, 30 ans, l'avènement du numérique, il n'y a plus là, les pas de doigts, flèches pour aller voir en bas, les trucs qu'on se juge un peu illisibles, incompréhensibles.
Les manuscrits sont carrément moins esthétiques, du coup. Mais non, il n'y en a plus. Alors, je suppose qu'il y a encore des auteurs qui écrivent à la main. J'en sais rien. Il va falloir leur demander. Il va falloir imprimer, jeter. Si, je suppose qu'ils impriment.
Dans la corbeille.
Ben oui. Donc oui, ce fameux point final qui est une tragédie pour l'auteur et en général imposé par l'éditeur. Mais c'est une tragédie pour l'auteur parce qu'il n'est jamais satisfait. Évidemment, le bon auteur est un internel insatisfait. On va continuer sur l'écriture, mais il va quand même nous parler beaucoup de la traduction. Il va nous parler beaucoup de ces auteurs qui sont des auteurs qui n'ont pas raté. Il va nous parler de Pessoa, il va nous parler de Kafka, il va également nous parler de Cocteau. Ces auteurs, évidemment, ont réussi, mais ce sont des auteurs qui avaient un sentiment d'échec insurmontable de leur vivant. Ils ont écrit énormément de lettres à leurs proches en disant à quel point c'était des ratés en littérature, ce qui n'était pas évidemment pas le cas.
On dit souvent artiste raté, hein. On dit rarement artiste...
Qui a réussi, oui voilà. Sauf Jeff Koons, mais c'est oui. Vrai.
C'est vrai, un acteur raté, un poète raté, un écrivain raté.
Les fameux clochards célestes,
ouais,
oui.
Les perdants magnifiques.
C'est ce dont il est question. Dans ce livre, il faut échouer superbement en littérature. C'est ce que Éric Chevillard nomme la littérature pavillonnaire. Il faut lutter contre la littérature pavillonnaire.
On dit un écrivain brillant. Quand on commence à écrire ça, en général, on le fait même avec une pipe, un brillant écrivain.
Non, mais c'est pour ça que j'aime bien cette expression de littérature pavillonnaire. Ouais. C'est vraiment ces pavillons qui se ressemblent, où tout se ressemble, et tout est moche finalement, parce que tout est pareil. C'est la littérature contre laquelle il faut lutter. Le paradoxe, évidemment, il nous parle de ce fameux sentiment d'échec. C'est la réussite, finalement. Comment échouer mieux, c'est comment réussir en littérature.
Réussir à se vautrer, c'est un projet. Hein.
Le traduire, son texte commence par la traduction, parce que c'est ce par quoi Claro est arrivé en littérature. Il nous parle du premier texte qu'il a traduit. La première phrase qu'il a dû traduire, c'était « It's about water ». C'est à propos de l'eau. C'est cette phrase toute courte.
C'est sans doute cette phrase.
C'était un des textes qu'il avait à traduire.
Je voulais vous voir, c'est à propos de l'eau. Ça, tu dis ça à ton proprio.
Oui, mais là, c'était en littérature. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il a vraiment galéré des semaines à traduire cette petite phrase. Traduire, c'est trahir. C'est aussi s'attacher à l'intraduisible. Il y a un fossé entre deux langues. Du coup, il a traduit son nom « c'est à propos de l'eau ». Il a enlevé le « c'est à propos ». Il a juste dit « l'eau ». Donc, il a traduit « it's about water » par « l'eau ». On comprend la trahison en littérature. Et c'est ça qui est passionnant. Je vais quand même vous le citer parce que « si la traduction est une leçon d'échec, c'est parce que sa pratique convoque la question de l'intraduisible. Remplacer un mot par un autre est un marché de dupes. Au lieu du même, on propose l'autre. Et ce faisant, on espère que différence aura valeur d'équivalence. De la sorte, on écrase non seulement le terme original, comme un fichier qu'un autre écrase, mais également la chose appréciée à ce terme. Exemple, quand je traduis « bread » par « pain », je fais comme si le rectangulaire pain demi anglais avait le pouvoir de s'arrondir, s'allonger, se fendiller et dorer pour prendre l'allure d'une sémillante baguette parisienne. Évidemment, deux mots, deux sens, l'intraduisible, comment on se lance dans cette affaire de la traduction. Il nous parle aussi, alors il est construit, c'est des petits chapitres, il va aussi nous parler, et c'est ça qui est très très drôle, de la liste de ses échecs, ces espèces de petits interludes où il fait des listes. Alors j'imagine Claro, monstre de la littérature, s'adonner à cet exercice de faire des listes, il a dû bien se marrer, mais dans sa liste de ses échecs, il va y avoir par exemple « laisser passer un jeu de mots facile alors que la conversation porte sur des choses tragiques », par exemple.
Je peux faire un petit aparté. Oui. Si vous passez par la capitale, il y a l'exposition de Sophie Calle au musée Picasso.
Ah, oui,
je vous recommande, où il y a tout un étage sur ses projets avortés.
Mais oui, mais c'est exactement ça. Mais c'est ce qui fait d'elle, évidemment, une grande artiste. J'adore Sophie Calle parce que je n'arrive pas à la comprendre, encore une fois.
Vous avez échoué à la comprendre.
J'ai échoué à la comprendre et c'est pour ça que je l'aime.
Donc, moi, j'ai échoué à ne pas être ému à l'expo.
Mais alors, en fait, dans sa liste de ses échecs, évidemment, en creux, il y a la liste de ce qu'il a évidemment réussi. Un autre paragraphe que j'aime beaucoup, c'est l'abstention. Ne pas écrire. Les grands auteurs sont ceux qui n'ont pas écrit. Il y a des livres...
Ah ouais, quand même.
Il va nous parler du fameux...
Je vais vous non relancer.
Mais si, le Necronomicon de Lovecraft, par exemple, ouais. C'est un texte fameux que tout le monde connaît, mais qui n'existe pas. Donc voilà, il va être question de tout...
Je suis arrivé ce matin, j'étais non ivre. Là... Je vous assure que c'était assez troublant.
Donc, Claro, l'échec, comment échouer mieux, mais en littérature, il va être question donc comment échouer à écrire, à traduire et à lire. C'est quoi être un bon auteur, un bon traducteur et un bon lecteur. Il faut échouer mieux.
Claro, l'échec, c'est aux éditions Autrement. Et en plus, la couve est super bien illustrée parce qu'on a pris un des plus magnifiques losers de l'histoire du cinéma, mais du cinéma muet, puisqu'il s'agit de Buster Keaton avec le fameux pavillon, justement, d'en parler, qui lui tombe dessus et lui qui réussit à passer à travers la fenêtre. Voilà. Comment pourrions-nous non rater la sortie de cette chronique en parlant des rendez-vous à venir ?
Mercredi prochain, mercredi 24, c'est la nuit des conservatoires.
Oui.
Voilà, on va accueillir le conservatoire des Landes ici à la librairie à partir de 18h30. Un concert donné par les élèves du conservatoire des Landes.
Je crois qu'il y a des cuivres qui sont là et je crois que ça bascule également après chez nos amis du restaurant Le Plumasson. Voilà les endroits singuliers pour faire de la musique.
Exactement. Et sinon, le samedi 27 janvier, à la librairie, il ne faudra absolument pas manquer la rencontre avec Laurent Bibard et Nicolas Sabouret pour la sortie de leur livre « L'intelligence artificielle n'est pas une question technologique » paru aux éditions de l'Aube.
Il va falloir argumenter quand même.
Échange animé par Jean Arambat, qui était...
C'est un feat de luxe.
Ça va être génial. Qui était l'un des élèves de Laurent Bibard, qui est prof de philosophie.
L'élève face au maître.
Belle discussion autour de ce sujet, l'intelligence artificielle.
L'année va être longue, hein, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'en parler.
On n'a pas fini d'en parler, ouais.
Eh bien, échouons à ne pas nous retrouver très bientôt.
Exactement, à bientôt.
À bientôt, Aurore.